Chapitre 4. Après les trois nuits sans sommeil qu'il avait passées à fuir les murides que Shamil avait lancées contre lui, Hadji Mourad s'endormit aussitôt que Sado eut quitté la cabane, après lui avoir souhaité une bonne nuit. Il dormait tout habillé, appuyé sur son bras, le coude enfoncé dans le moelleux coussin rouge que le maître du logis lui avait apporté. Non loin de lui, près du mur, dormait Eldar. Eldar était couché sur le dos, ses jeunes membres vigoureux largement écartés, de sorte que sa poitrine bombée, recouverte de sa tcherkesska blanche à rayures noires, était plus haute que sa tête fraîchement rasée, bleuissante, qui retombait de l'oreiller. Sa lèvre supérieure, courte comme chez les enfants, et surmontée d'un léger duvet, s'abaissait et se relevait, de sorte qu'il paraissait boire. Comme Hadji Mourad, il dormait tout habillé, le pistolet et le poignard à la ceinture. Dans l'âtre, des branches achevaient de brûler, et la veilleuse projetait seulement une faible lueur. Au milieu de la nuit, la porte de la cabane réservée aux hôtes grinça, et Hadji Mourad se dressa aussitôt et saisit son pistolet. C'était Sado qui entrait dans la chambre, en effleurant doucement le sol. « Qu'y a-t-il ? » demanda Hadji Mourad, comme s'il ne s'était pas du tout endormi. « Il faut réfléchir, » répondit Sado, en s'asseyant devant Hadji Mourad. « Une femme, du toit, t'a vu arriver, » dit-il. Elle l'a raconté à son mari, et maintenant tout Laoul est au courant. Tout à l'heure, une voisine est accourue chez ma femme, et lui a dit que les vieillards se sont réunis dans la mosquée et veulent arrêter. « Il faut partir, » dit Hadji Mourad. « Les chevaux sont prêts, » dit Sado, et il sortit rapidement de la cabane. « Eldar, » prononça tout bas Hadji Mourad. Eldar, entendant son nom, et surtout la voix de son chef, bondit sur ses fortes jambes en remettant son bonnet. Hadji Mourad prit ses armes et son manteau. Eldar en fit autant, et tous deux en silence sortirent de la cabane sous l'auvent. Le garçon aux yeux noirs amena les chevaux. Au bruit des sabots sur les pavés de la rue, une tête parut à la porte d'une cabane voisine. Un homme, en faisant résonner ses socs, courait dans la direction de la mosquée. Il n'y avait pas de lune. Les étoiles seules brillaient sur le ciel noir. Dans l'obscurité se profilaient les toits des cabanes, et, les dominant toutes, se dressait à la partie supérieure de la houle, la mosquée avec son minaret. De là venait un bruit de voix. Hadji Mourad saisit rapidement son fusil, mit le pied dans l'étrier de gauche et, sans bruit, enjamba en un clin d'œil le haut coussin de sa selle. « Dieu vous récompense, » dit-il au maître du logis, tout en cherchant d'un mouvement habituel du pied droit l'autre étrier. Puis il toucha de sa cravache le garçon qui tenait le cheval, lui indiquant par cela de s'écarter. Le garçon se recula, et le cheval, comme s'il savait lui-même ce qu'il avait à faire, rapidement sortit de la ruelle sur la rue principale. Eldar marchait derrière. Sado en pelisse les suivait en courant d'un côté à l'autre de la rue étroite, en agitant rapidement les bras. Tout à coup parut sur la route une ombre qui se mouvait, puis une autre. « Arrête ! Qui va là ? Arrête ! » cria une voix, et quelques hommes barrèrent la route. Au lieu de s'arrêter, Hadji Mourad tira son pistolet de sa ceinture, accéléra sa course, et dirigea son cheval droit sur les hommes qui lui paraient le chemin. Les hommes s'écartèrent, et, sans se retourner, Hadji Mourad, au grand galop, descendit la route. Eldar le suivait à la même allure. Deux coups de fusil retentirent derrière eux, deux balles sifflèrent, mais sans atteindre ni lui ni Eldar. Hadji Mourad allait toujours au grand galop, mais, au bout de 300 pas, il arrêta son cheval un peu essoufflé et se mit à écouter. Devant lui, en bas, c'était le bruit du torrent. Derrière, dans la houle, les coqs s'interpellaient, et à travers ces bruits s'entendait le piétinement de chevaux qui s'approchaient derrière eux et un bruit de voix. Hadji Mourad poussa son cheval au trot. Les cavaliers qui galopaient derrière bientôt rejoignirent Hadji Mourad. Ils étaient une vingtaine. C'étaient les habitants de la houle qui avaient résolu d'arrêter Hadji Mourad, ou au moins, pour se justifier devant Shamil, de feindre l'intention de l'arrêter. Quand ils furent assez rapprochés pour être distincts dans l'obscurité, Hadji Mourad s'arrêta, abandonna les rênes, et, d'un mouvement habituel, de la main gauche débouclant l'étui du fusil, de la droite il le sortit. Eldar fit la même chose. « Que vous faut-il ? » cria Hadji Mourad. « Vous voulez me prendre ? Eh bien, prenez ! et il ajusta son fusil. Les habitants de la houle s'arrêtèrent. Hadji Mourad, tenant son fusil à la main, se mit à descendre le ravin. Les cavaliers, sans se rapprocher, le suivirent. Quand Hadji Mourad eut franchi le ravin, les cavaliers qui le poursuivaient lui crièrent d'écouter ce qu'il voulait lui dire. En réponse, Hadji Mourad tira et lança son cheval au galop. Quand il l'arrêta, on n'entendait plus ni la poursuite ni les coqs. On entendait seulement plus distinctement dans la forêt le murmure de l'eau et, de temps en temps, les ululements des hiboux. Le mur noir de la forêt était tout proche. C'était cette même forêt dans laquelle l'attendaient ses murides. Arrivé à la forêt, Hadji Mourad s'arrêta et, ayant repris haleine, siffla, puis silencieux, prêta l'oreille. Une minute après, le même sifflement répondit dans la forêt. Hadji Mourad quitta la route et pénétra dans la forêt. Quand il eut fait une centaine de pas, il aperçut à travers les troncs d'arbres un bûcher, les ombres des hommes assis autour et un cheval sellé, entravé, éclairé à mi-hauteur par la flamme du bûcher. Quatre hommes étaient assis près du bûcher. L'un d'eux se leva rapidement, s'approcha de Hadji Mourad et saisit la bride et l'étrier. C'était le frère d'armes de Hadji Mourad qui était chargé de toutes ses affaires. « Éteins le feu !» dit Hadji Mourad en descendant le cheval. Les hommes se mirent à écarter le bûcher et à piétiner les branches enflammées. « Est-ce que Bata est venu ici ?» demanda Hadji Mourad en s'approchant d'un manteau étalé. « Il est venu, mais il y a déjà longtemps qu'il est parti avec Khan Magom. »« Par quelle route sont-ils partis ?»« Par celle-ci, » répondit Kanefi, indiquant la route opposée à celle par laquelle était venu Hadji Mourad. « Bon, » fit Hadji Mourad, et ayant enlevé son fusil, il se mit à le charger. « Il faut être sur ses gardes. »« On me poursuit, » dit-il, en s'adressant à l'homme qui éteignait le feu. C'était un Tchétchène, Gamzalo. Gamzalo s'approcha du manteau, prit le fusil de l'étui qui était posé dessus, et sans mot dire, alla à l'extrémité de la clairière, à l'endroit par où Hadji Mourad avait débouché. Eldar, qui était descendu du cheval, prit avec le sien celui de Hadji Mourad et, en tirant haut les têtes des deux chevaux, il les attacha à des arbres. Puis, comme Gamzalo, il prit son fusil et alla se poster à l'autre extrémité de la clairière. Le bûcher était éteint et la forêt ne semblait plus aussi noire, bien que les étoiles éclairassent faiblement dans le ciel. Observant les étoiles, les feux de la nuit, qui déjà atteignait la moitié du ciel, Hadji Mourad estima que minuit était passé depuis longtemps et qu'il était temps de dire la prière de la nuit. Il prit son manteau et alla vers l'eau. Il enleva ses chaussures, fit ses ablutions, se tint pieds nus sur le manteau, ensuite s'assit sur ses talons et, bouchant d'abord avec ses doigts ses oreilles et fermant les yeux, il prononça en se tournant vers l'Orient sa prière habituelle. Quand elle fut terminée, il revint près de ses compagnons, s'assit sur son manteau, le coude appuyé sur ses genoux et la tête baissée, et il se mit à songer. Hadji Mourad avait foi en son étoile. Chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il était d'avance fermement convaincu du succès et tout lui souriait. Il en avait été ainsi, à de rares exceptions près, pendant toute sa tumultueuse vie militaire. Il espérait qu'il en serait encore de même. Il se représentait comment, avec l'armée que lui donnerait Vorontsov, il irait contre Chamil, le ferait prisonnier, se vengerait, et comment le tsar russe le récompenserait. Et alors, de nouveau, il dirigerait non seulement l'Arabie, mais toute la Tchétchénie qui se soumettrait à lui. Au milieu de ses pensées, il s'endormit sans même le remarquer. En rêve, il se voyait, avec ses soldats, chantant et criant « Hadji Mourad, en avant !» s'élançant contre Chamil, s'emparant de lui et de ses femmes, dont on entendait les pleurs et les sanglots. Il s'éveilla. La chanson « Laïlaka » et les cris « Hadji Mourad en avant » et les pleurs des femmes de Chamil, tout cela n'était que les cris, les pleurs, les rires des chacals qui l'avaient éveillé. Hadji Mourad leva la tête et regarda le ciel déjà clair, entre les arbres, du côté de l'Orient. Et il demanda au Murid qui était assis un peu loin de lui, où était Khan Magom. Ayant appris qu'il n'était pas encore de retour, Hadji Mourad de nouveau inclina la tête et s'endormit. La voix joyeuse de Khan Magom, revenant de sa mission avec Bata, l'éveilla. Khan Magom s'assit aussitôt à côté de Haji Murad et se mit à lui raconter comment les soldats les avaient rencontrés et accompagnés jusqu'au prince lui-même. Comment il avait parlé au prince, comment le prince s'était réjoui et avait promis de l'attendre ce matin à l'endroit où les Russes coupent la forêt, derrière Michtin, sur la clairière de Chalinsk. Bata interrompait le récit de son compagnon pour ajouter de nouveaux détails. Haji Murad voulut savoir quelles paroles textuelles avait répondu Vorontsov à sa proposition de se rallier aux Russes. Et Khan Magom et Bata redirent d'une voix que le prince avait promis de recevoir Haji Murad comme son hôte et de faire en sorte que tout soit très bien pour lui. Haji Murad s'informa encore de la route et Khan Magom, lui ayant affirmé qu'il connaissait bien le chemin et le conduirait tout droit là-bas, il prit l'argent, donna à Bata les 3 roubles convenus. Et il ordonna au sien de prendre du bissac ses armes incrustées d'or et son bonnet à turban et de les nettoyer, afin qu'il puisse se présenter aux Russes en belle tenue. Pendant qu'on nettoyait les armes, les selles, les harnais, les chevaux, les étoiles s'étaient éteintes. Il faisait maintenant tout à fait clair et un vent léger, précédant l'aube, soufflait. Chapitre 5. Le matin, de bonne heure, avant le jour, 2 compagnies, sous le commandement de Poltoratsky, sortirent, munies de haches, pour se rendre à Diverst, au-delà des portes de Chaguirinsk. Là, on dispersa une chaîne de fusillés, et dès que le jour commença à poindre, les soldats se mirent à couper du bois. Vers 8 heures, le brouillard, qui se confondait avec la fumée odorante des branches humides qui sifflaient et craquaient dans les bûchers, commença à se lever. Et les coupeurs de bois, qui auparavant ne se voyaient pas à 5 pas, mais entendaient seulement les coups, purent distinguer les bûchers et la route traversant la forêt, remplie d'arbres coupés. Le soleil tantôt se montrait comme une tache claire dans le brouillard, tantôt disparaissait. Sur la clairière, à l'écart de la route, Poltoratsky était assis sur un tambour, avec son officier subalterne Tikhonov, 2 officiers de la 3e compagnie, et un ancien officier de garde dégradé pour duel, le camarade de Poltoratsky à l'école des pages, le baron Frézé. Le sol près des tambours était jonché de papier ayant enveloppé des victuailles, de mégots et de bouteilles vides. Les officiers avaient bu de l'eau-de-vie, mangé et maintenant buvaient du porto. Le tambour débouchait la 3e bouteille. Poltoratsky, bien qu'il eût peu dormi, était dans cet état particulier d'énergie morale, de franche gaieté insouciante, dans lequel il se trouvait toujours parmi ses soldats et ses camarades, là où pouvait être un danger. Une conversation animée s'était engagée entre les officiers à propos de la dernière nouvelle, la mort du général Slipsov. Aucun d'eux ne voyait dans cette mort le moment le plus important de la vie, sa fin et le retour à la source d'où elle était venue. Il n'y voyait que la bravoure d'un officier courageux qui s'était jeté sur les montagnards, l'épée à la main, et les avait massacrés désespérément. Bien que tous, surtout les officiers ayant déjà pris part à des batailles, sussent qu'à cette guerre du Caucase, comme du reste à n'importe quelle guerre, il n'y a point de corps à corps, l'épée à la main, comme on l'imagine et le décrit. Si une telle rencontre se produit, alors on ne tue et ne massacre que les fuyards. Cette fiction était adoptée par les officiers et leur donnait cet orgueil satisfait et cette gaieté qu'ils possédaient là, assis sur les tambours, les uns dans des attitudes martiales, les autres au contraire dans des poses plus modestes. Et ils fumaient, buvaient, plaisantaient, narguant la mort qui pouvait d'un moment à l'autre frapper l'un d'eux, ainsi qu'elle l'avait fait avec Slipsov. En effet, comme pour confirmer leur attente, au beau milieu de leur conversation, le joli bruit d'un coup de fusil retentit à gauche de la route et une petite balle, en sifflotant gaiement, vola quelque part dans l'air rempli de brouillard et vint frapper contre un arbre. Quelques coups de fusil des soldats répondirent aux coups ennemis. « Ah ah !» cria d'une voix joyeuse Poltoratsky. « Cela se passe sur la ligne des fusillés. »« Eh bien, mon cher Kostia, s'adressa-t-il à Frézé, c'est ta chance. » « Va à ta compagnie, Nous allons faire tout de suite une telle bataille que ce sera délicieux. Une vraie représentation. » Le baron dégradé bondit sur ses jambes et, à pas rapide, se dirigea du côté de la fumée où était sa compagnie. On amena à Poltoratsky son petit cheval bai de Kabardine et, rassemblant sa compagnie, il la conduisit dans la direction de la fusillade. Le front se tenait à la lisière de la forêt devant le ravin nu. Le vent soufflait dans la forêt et on voyait clairement non seulement la descente du ravin, mais l'autre côté. Quand Poltoratsky arriva près de la chaîne, le soleil se montrait à travers le brouillard et du côté opposé du ravin, dans l'autre forêt qui commençait là-bas, on apercevait, à une centaine de sa gêne, quelques cavaliers. C'étaient les Tchétchènes qui avaient poursuivi Hadji Mourad et voulaient voir son arrivée chez les Russes. L'un d'eux fit feu sur la chaîne, quelques soldats lui répondirent. Les Tchétchènes s'éloignèrent et la fusillade cessa. Mais quand Poltoratsky arriva avec sa compagnie et ordonna de tirer, aussitôt l'ordre transmis, sur toute la ligne du cordon, s'entendit le cliquetis interrompu, gai des fusils, accompagné de fumée qui se dispersait gracieusement. Les soldats, heureux de la distraction, chargeaient rapidement leurs armes et lançaient balle sur balle. Évidemment, les Tchétchènes sentirent la provocation et, irrités, bondissant l'un après l'autre, à leur tour, ils firent feu sur les soldats. L'un de ceux-ci fut blessé. C'était ce même Avdeyev qui avait été envoyé au guet. Quand ses camarades s'approchèrent de lui, il était couché sur le ventre, tenant à deux mains sa blessure, et, se secouant d'un mouvement régulier, il gémissait doucement. Je commençais juste à charger mon fusil, j'ai entendu claquer quelque chose. « Tic !» disait le soldat qui était dans le rang à côté d'Avdeyev. Je regarde et il laisse tomber son fusil. Avdeyev appartenait à la compagnie de Poltoratsky. Ayant remarqué le groupe qui s'était formé autour d'Avdeyev, Poltoratsky s'approcha. « Quoi, frère, tu as reçu le baptême du feu » dit-il. « Où ça ?» Avdeyev ne répondit pas. « Je commençais juste à charger mon fusil. J'entends claquer quelque chose. Tic, je regarde. » « Il laisse tomber son fusil », répéta le soldat qui était dans le rang à côté d'Avdeyev. Claqua de la langue Poltoratsky. « Et quoi, Avdeyev, ça te fait mal ?»« Pas mal, mais ça m'empêche de marcher. Je prendrai bien du vin, votre seigneurie. » Le vin, c'est-à-dire l'alcool que buvaient les soldats du Caucase, fut apporté, et Panov, en fronçant sévèrement les sourcils, en donna une tasse à Avdeyev. Avdeyev commença à boire, mais aussitôt, de la main, écarta la tasse. « Le cœur n'en veut pas. Bois toi-même. » Panov vida la tasse. De nouveau, Avdeyev essaya de se soulever et de nouveau retomba. On déplia un manteau sur lequel on le plaça. « Votre seigneurie, voici le colonel, » dit un caporal en s'approchant de Poltoratsky. « Bon, toi, veille sur lui, » dit Poltoratsky, et faisant siffler sa cravache, il partit au grand trot à la rencontre de Vorontsov. Vorontsov, qui montait un trotteur anglais pur sang, roux, était accompagné d'un aide de camp, d'un cosaque et d'un interprète tchétchène. « Que se passe-t-il ici ? » demanda-t-il à Poltoratsky. « Voici, une bande de tchétchènes s'est avancée et a attaqué le cordon, » lui répondit Poltoratsky. « Bon, bon, c'est vous-même qui avez commencé tout cela ?» « Non, prince, pas moi, » dit Poltoratsky en souriant. « Ce sont eux qui nous ont provoqués. »« J'ai entendu qu'un soldat était blessé. »« Oui, et c'est dommage, un brave soldat. »« Gravement ?»« Ça en a l'air, dans le ventre. » »« Et savez-vous où je vais, moi ?» demanda Vorontsov. « Non, je ne sais pas. »« Est-ce que vous ne devinez pas ?»« Hadji Mourad va venir ici. »« Nous nous rencontrerons dans un instant. »« Pas possible !» Hier, l'émissaire est retourné le prévenir, dit Vorontsov, retenant avec effort un sourire de joie. À l'instant, il va venir m'attendre dans la forêt, sur la clairière. Dispersez vos fusillés jusque-là, et ensuite venez me rejoindre. À vos ordres, dit Poltoratsky, en portant la main à son bonnet. Il retourna à sa compagnie, conduisit lui-même le cordon sur la droite, et ordonna à un sergent-major d'emmener celui de gauche. Pendant ce temps, les soldats transportaient à la forteresse Avdeyev blessé. Poltoretsky était en route pour rejoindre Vorontsov quand il aperçut, derrière lui, des cavaliers qui venaient de son côté. Il s'arrêta et les attendit. Devant tous s'avançait, sur un cheval à crinière blanche, un homme à l'air imposant, en tcherkesska blanche, le turban surmontant le bonnet et dont les armes étaient incrustées d'or. Cet homme était Hadji Mourad. Il s'approcha de Poltoretsky et lui dit quelque chose en tatar. Poltoretsky souleva les sourcils, fit un geste de la main, indiquant qu'il ne comprenait rien, et sourit. Hadji Mourad répondit à ce sourire par un sourire qui frappa Poltoretsky par sa bonté et sa naïveté enfantine. Poltoretsky ne s'était pas représenté ainsi ce terrible montagnard. Il s'attendait à voir un homme morne, sec, étranger, et il avait devant lui un homme très simple, qui souriait d'un sourire si bon qu'il semblait être un ami connu depuis longtemps. La seule chose extraordinaire chez lui, c'était les yeux, très largement écartés, qui scrutaient attentivement, profondément, les yeux des autres. La suite de Hadji Mourad se composait de quatre hommes. Il y avait ce Khan Magom, qui, cette nuit, était venu trouver Vorontsov. C'était un homme au visage cramoisi, rond, avec des yeux noirs brillants, sans paupières, et une expression pleine de la joie de vivre. Il y avait encore un homme, trapu, velu, dont les sourcils se joignaient. C'était un Abbaz, Kanefi, qui avait la charge de toutes les affaires de Hadji Mourad. Il conduisait avec lui un cheval chargé de sacs bien remplis. Les deux autres hommes de la suite étaient surtout remarquables. L'un était jeune, avait la taille fine comme celle d'une femme, de larges épaules, la barbiche blonde naissante et des yeux de brebis. Ce beau garçon, c'était Eldar. L'autre, borgne, sans cils ni sourcils, la barbe rousse taillée, le visage balafré, était un Tchétchens Gamzalo. Poltoretsky indiqua à Hadji Mourad Vorontsov qui débouchait sur la route. Hadji Mourad se dirigea vers lui, en s'approchant, posa sa main droite sur sa poitrine, puis prononça quelques mots en tatar et s'arrêta. L'interprète tchétchène traduisit « Je me rends à la volonté du tsar russe. Je veux le servir. Je le voulais depuis longtemps, mais Chamil m'en empêchait. » Vorontsov tendit à Hadji Mourad sa main gantée. Hadji Mourad regarda cette main, eut une minute d'hésitation, mais ensuite la serra fortement et prononça quelque chose en regardant tantôt l'interprète, tantôt Vorontsov. Il dit qu'il n'a voulu aller chez personne d'autre que chez toi parce que tu es le fils du Sardar. Il te respecte grandement. Vorontsov remercia d'un signe de tête. Hadji Mourad dit encore quelque chose en indiquant sa suite. Il dit que ses hommes, ses murides, comme lui, serviront les Russes. Vorontsov le regarda et acquiesça de la tête. Le Tchétchène aux yeux sans paupières, le joyeux Khan Magom, hochant aussi la tête, dit quelque chose à Vorontsov, et probablement quelque chose de très drôle, parce que le velu Abbaz sourit en montrant des dents d'une blancheur éblouissante. Quant au roux Gamzalo, il jeta seulement un rapide regard de son œil rouge sur Vorontsov, et aussitôt le fixa de nouveau sur les oreilles de son cheval. Tandis que Vorontsov et Hadji Mourad, accompagnés de leur suite, retournaient à la forteresse, les soldats, réunis en groupe, faisaient leurs réflexions. « Combien d'âmes a-t-il perdu, ce maudit? Et maintenant, tu verras, on le flattera, » disait l'un. Comment en serait-il autrement? Il était le premier commandant de Chamil. Maintenant, c'est autre chose. Il a l'air d'un brave. Il n'y a pas à dire un vrai cavalier. Et as-tu vu le roux? Il louche comme une bête. Ça doit être un vrai chien. » Tous avaient remarqué particulièrement le roux. Partout où l'on coupait la forêt, les soldats qui se trouvaient près de la route accouraient pour regarder. Un officier cria sur eux, mais Vorontsov l'arrêta. « Qu'ils regardent leur vieille connaissance !»« Sais-tu qui c'est ?» demanda Vorontsov aux soldats qui se trouvaient le plus près, en prononçant lentement et avec un accent anglais. « Non, Votre Excellence. C'est Hadji Mourad. As-tu entendu ce nom ?»« Comment donc, Votre Excellence ? On l'a battu plusieurs fois. » »« Oui, mais il nous le rendait aussi. » »« Parfaitement, Votre Excellence, » répondit le soldat, heureux d'avoir causé avec son chef. Hadji Mourad comprit qu'on parlait de lui, et un sourire satisfait brilla dans ses yeux. Vorontsov rentra à la forteresse dans la disposition d'esprit la plus joyeuse. Chapitre 6. Vorontsov était content parce que c'était précisément lui qui avait réussi à attirer et à recevoir le principal et plus puissant ennemi de la Russie après Chamil. Une chose toutefois lui était désagréable. Le commandant des troupes de la forteresse Vostvitschenskaya était le général Meller Zakomelski, et à vrai dire, toute cette affaire aurait dû être menée par lui, tandis que Vorontsov avait tout fait sans lui en rien dire, de sorte qu'il en pouvait résulter des désagréments. Cette pensée gâtait un peu le plaisir de Vorontsov. Arrivé à sa demeure, Vorontsov confia à l'aide de camp les murides de Hadji Mourad et invita celui-ci personnellement dans sa maison. La princesse Marie Vassilievna, élégante, souriante, accompagnée de son fils, un beau garçon de 6 ans aux cheveux bouclés, vint recevoir Hadji Mourad dans le salon. Hadji Mourad croisa ses deux mains sur sa poitrine et un peu solennellement répéta plusieurs fois, par l'intermédiaire de l'interprète qui l'accompagnait, qu'il se considérait comme un véritable ami du prince, puisque celui-ci l'avait reçu dans sa maison, et que la famille d'un ami est aussi sacrée pour l'autre que l'ami lui-même. La personne et les manières de Hadji Mourad plurent à Marie Vassilievna, et le fait qu'il rougît quand elle lui tendit sa longue main blanche la disposa encore plus en sa faveur. Elle le pria de s'asseoir, et après lui avoir demandé s'il buvait du café, elle donna l'ordre de servir. Cependant, Hadji Mourad refusa le café quand on le lui offrit. Il comprenait un peu le russe, mais ne pouvait le parler, et quand il ne comprenait pas, il souriait. Et son sourire plaisait à Marie Vassilievna, comme il avait plu à Poltoratsky. Quant au garçon frisé, aux yeux vifs, le fils de Marie Vassilievna, qu'elle appelait Boulka, il était debout près de sa mère et ne quittait pas des yeux Hadji Mourad, dont il avait entendu parler comme d'un guerrier fameux. Laissant Hadji Mourad avec sa femme, Vorontsov se rendit à la chancellerie pour donner l'ordre de faire un rapport aux autorités sur le ralliement de Hadji Mourad. Après avoir écrit un rapport au chef du flanc gauche, général Kozlovski, à la forteresse Groznaya, et une lettre à son père, Vorontsov se hâta de rentrer chez lui, ayant peur que sa femme ne fût mécontente qu'il l'ait laissée avec ce terrible étranger, qu'il fallait veiller à ne pas offenser, ni trop flatter. Mais sa crainte était vaine. Hadji Mourad était assis dans un fauteuil, tenant sur ses genoux Boulka, le beau-fils, et, la tête inclinée, il écoutait attentivement ce que lui disait l'interprète, traduisant les paroles de Marie Vassilievna, qui riait. Marie Vassilievna lui disait que s'il donnait à chaque ami l'objet que celui-ci trouverait bon, alors il lui faudrait bientôt se promener comme Adam. À l'entrée du prince, Hadji Mourad ôta de ses genoux Boulka, étonné et offensé de cela, se leva, et aussitôt l'expression frivole de son visage fit place à une expression sévère et sérieuse. Il ne s'assit qu'après Vorontsov. Continuant la conversation, il répondit aux paroles de Marie Vassilievna que c'est ainsi leur loi, que tout ce qui plaît à l'ami, il faut le lui donner. « Ton fils est mon ami, » dit-il en russe, en caressant les cheveux bouclés de Boulka, qui de nouveau grimpait sur ses genoux. « Il est délicieux, ton brigand, » dit en français Marie Vassilievna à son mari. Boulka ayant admiré son poignard, Hadji Mourad lui en avait fait cadeau. Boulka alla le montrer à son beau-père. « C'est un objet de prix, » remarqua Marie Vassilievna. « Il faut trouver l'occasion de lui faire un cadeau, » dit Vorontsov. Hadji Mourad était assis, caressant la tête bouclée de l'enfant, et disait « Cavalier, cavalier !»« Un beau, très beau poignard !» dit Vorontsov, tirant à moitié la lame affilée, creusée d'une petite rainure. « Merci, demande-lui ce que je puis faire pour lui !» dit Vorontsov à l'interprète. L'interprète traduisit, et aussitôt Hadji Mourad répondit qu'il ne lui fallait rien, et demandait seulement qu'on veuille le conduire dans un endroit où il pourrait prier. Vorontsov appela son valet de chambre et lui ordonna de se mettre à la disposition de Hadji Mourad. Dès que celui-ci se trouva seul dans la chambre qui lui était destinée, son visage soudain se transforma. L'expression de plaisir, tantôt tendre, tantôt solennelle, disparut et fit place à une expression soucieuse. L'accueil de Vorontsov était bien meilleur qu'il ne l'avait espéré, et il avait confiance en lui et en ses officiers. Cependant, il craignait tout, qu'on ne l'emprisonnât, lui mît les fers, le déportât en Sibérie, ou tout simplement qu'on le tuât. Aussi se tenait-il sur ses gardes. Il demanda à Eldar, qui vint le trouver, où l'on avait placé les murides, où étaient les chevaux, et si on ne leur avait pas pris leurs armes. Eldar lui fit savoir que les chevaux étaient dans l'écurie du prince, que les murides logeaient dans la grange, qu'on leur avait laissé leurs armes, et que l'interprète les régalait de thé et de victuailles. Hadji Mourad, étonné, hochait la tête. Il se dévêtit et se mit à prier. Ses prières terminées, il ordonna de lui apporter son poignard d'argent, s'habilla, mit sa ceinture et s'assit sur le divan attendant les événements. À 4 heures, on vint le chercher pour dîner avec le prince. Pendant le repas, Hadji Mourad ne mangea rien, sauf du pilau dont il se servit en prenant juste à cet endroit du plat où s'était servie Marie Vassilievna. « Il a peur que nous l'empoisonnions, » dit Marie Vassilievna à son mari. « Il a pris juste où je venais de prendre. » Et aussitôt, s'adressant à Hadji Mourad par l'interprète, elle lui demanda à quelle heure il prierait de nouveau. Hadji Mourad leva 5 doigts et montra le soleil. « Alors c'est bientôt, » dit Vorontsov. Il tira son chronomètre et appuya sur le ressort. La montre sonna 4 heures et le quart. Hadji Mourad, visiblement étonné de ce son, demanda de faire sonner encore et regarda la montre. « Voilà l'occasion, donnez-lui la montre !» dit Marie Vassilievna à son mari. Vorontsov offrit aussitôt la montre à Hadji Mourad. Celui-ci porta la main à sa poitrine et prit la montre. Plusieurs fois, il pressa le ressort, écouta et hocha approbativement la tête. Après le dîner, on annonça au prince l'arrivée de l'aide de camp de Meller Zakomelski. L'aide de camp venait dire que le général, ayant appris le ralliement de Hadji Mourad, était très mécontent de n'en point avoir été informé, et qu'il exigeait que Hadji Mourad lui fût immédiatement amené. Vorontsov répondit que l'ordre du général allait être exécuté, et par l'interprète, il prévint Hadji Mourad de la volonté du général et lui demanda de l'accompagner chez Meller. Marie Vassilievna, ayant appris le motif de la venue de l'aide de camp, comprit aussitôt qu'entre son mari et le général, une scène désagréable était à craindre, et malgré toutes les objections de son mari, elle se prépara à aller avec eux chez le général. « Vous feriez mieux de rester, c'est mon affaire et non la vôtre. Vous ne pouvez cependant pas m'empêcher d'aller voir madame la générale. On pourrait choisir un autre moment. Et moi, je désire y aller aujourd'hui. » Il n'y avait rien à faire. Vorontsov consentit, et ils partirent tous trois. Quand ils entrèrent, Meller, avec une courtoisie forcée, conduisit Marie Vassilievna chez sa femme et donna l'ordre à l'aide de camp d'accompagner Hadji Mourad dans la salle d'attente et de ne le laisser sortir nulle part sans son ordre. « Je vous en prie, » dit-il à Vorontsov en ouvrant la porte de son cabinet de travail et y laissant passer le prince. Une fois dans son cabinet, il s'arrêta devant le prince et, sans le prier de s'asseoir, se mit à dire « Je suis ici le chef militaire. C'est pourquoi tous les pourparlers avec l'ennemi doivent être menés par moi. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé du ralliement de Hadji Mourad ?»« Un émissaire est venu chez moi et m'a informé du désir de Hadji Mourad de se rendre à moi, » répondit Vorontsov, pâle d'émotion, attendant quelque grossièreté de la part du général furieux et gagné lui aussi par sa colère. « Je vous demande pourquoi vous ne m'avez pas informé. » « J'avais l'intention de le faire, baron, mais... »« Pour vous, je ne suis pas baron, mais excellence. » Et tout d'un coup, l'irritation du baron, si longtemps contenue, s'épancha. Il déversa tout ce qu'il avait sur le cœur. « Je ne sers pas depuis 27 ans mon empereur pour que des hommes qui ne sont que d'hier au service, profitant de leurs relations et de leur parenté, disposent sous mon nez de ce qui ne les regarde pas. »« Excellence, je vous prie de ne pas dire ce qui n'est pas juste. » l'interrompit Vorontsov. « Je dis la vérité, et ne permettrai pas, » reprit le général de plus en plus irrité. À ce moment, avec un froufrou de jupe, entra Marie Vassilievna, suivie d'une dame de taille moyenne, à la mise modeste, la femme de Meller Zakomelski. Je vous en prie, baron. Simon n'a point voulu vous être désagréable, dit Marie Vassilievna. Mais, princesse, je ne dis pas cela. Eh bien, tenez, laissez donc tout cela. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne querelle. Qu'est-ce que je dis ? Elle se mit à rire. Et le général fâché se soumit au rire charmant de la belle. Un sourire parut sous sa moustache. « Je reconnais que j'ai eu tort, » dit Vorontsov. « Mais, eh bien, moi aussi, je me suis emporté, » dit Meller, et il tendit la main au prince. La paix était faite, et l'on décida de laisser momentanément Hadji Mourad chez Meller, et ensuite de l'envoyer au chef du flanc gauche. Hadji Mourad était assis dans la pièce voisine, et bien que ne comprenant pas ce qu'on disait, il se rendit compte cependant de ce qu'il lui importait de comprendre, à savoir qu'ils avaient discuté à son sujet, que son éloignement de Chamil était une chose très importante pour les Russes, et que par conséquent, non seulement on ne le déporterait ni ne le tuerait, mais qu'il pourrait exiger d'eux beaucoup. Il comprit en outre que nominalement le chef, Meller Zakomelski, n'avait cependant pas l'importance de Vorontsov, son subordonné. Que Vorontsov était important, et non Meller Zakomelski. C'est pourquoi, quand celui-ci le fit appeler et l'interrogea, Hadji Mourad se tint devant lui avec beaucoup de fierté et de solennité et déclara qu'il était sorti de la montagne pour servir le tsar blanc, mais qu'il ne rendrait de compte qu'à son sardar, c'est-à-dire au commandant en chef à Tiflis, le prince Vorontsov.